RFI, grand reportage, Mehdi Medeb.
Ils sont nomades depuis des générations en Asie centrale. Certains se sont fixés en Afghanistan depuis des décennies. Et pourtant, ils ne sont toujours pas considérés comme des Afghans à part entière. Discriminés, rejetés par la société afghane conservatrice, rejetés pour leurs différences culturelles, ces nomades peinent à revendiquer leur droit à l'éducation et à la propriété. Les djoghis, les nomades discriminés d'Afghanistan, un grand reportage de Sonia Ghezali.
À quelques minutes du centre-ville de Mazar-e-Sharif, dans le nord de l'Afghanistan, un camp aux allures de bidonville. Il faut quitter la route, s'engager sur un chemin de terre, gravir une petite butte, l'allonger. Apparaissent alors des petites maisons en pisé qui sont séparées par des petites cours. Sur des cordes suspendues sèchent des vêtements, des draps. Sur les murets, les tapis coloris prennent l'air au soleil.
Nous sommes ici sur ce terrain depuis 7-8 ans. Nous avons demandé de l'aide aux autorités, mais celles-ci ne font rien pour nous, rien du tout. Ce que nous souhaiterions en priorité, c'est d'avoir accès à la terre, à la propriété. Les seuls à nous aider sont les employés de l'ONG PIN. Ils nous ont amené l'eau ici et les panneaux solaires, parce qu'on n'a rien, on est pauvre. On n'a pas de terre, on n'a rien. Comment avoir du bétail, comment cultiver quelque chose quand on n'a pas de terrain?
Uriel a une soixantaine d'années. Il est le chef de cette communauté de djoghis, un peuple nomade qui, en Afghanistan, vit au banc de la société.
Nous n'avons pas de terre, nous n'avons même pas de quoi manger. Comment avoir une terre ici? Personne ne nous aide en Afghanistan. Le gouvernement ne se soucie pas de nous, ça lui est égal, on est seul.
Le vieil homme, enroulé dans un long châle traditionnel, montre du doigt une pompe à eau, installée l'an passé par l'ONG tchèque PIN, People in Need, population dans le besoin. 130 familles vivent ici, explique-t-il. Le camp existe depuis 7 ans, le terrain appartient à un particulier qui leur loue une centaine d'euros par famille chaque année.
Il y a 130 ans, il y avait la guerre à Boukhara, en Ouzbékistan. Notre communauté a alors quitté le pays pour venir en Afghanistan. À cette époque, c'était la paix ici. On voyageait partout à travers le pays. Mais depuis quelques années, ce n'est plus possible. On s'est installé ici. On voudrait participer à la vie politique, que nos enfants puissent étudier et que l'on puisse acheter des
terres.
Durant la guerre civile, on est allé vivre au Pakistan. Puis, quand Hamid Karzai est arrivé au pouvoir, on est revenu en Afghanistan. Mais notre situation n'a pas changé. On est très pauvres.
D'où les djoghis sont-ils originaires exactement? Il ignore si les grands-parents et les arrière-grands-parents d'Ourial viennent d'Ouzbékistan, un pays voisin de l'Afghanistan. Leurs racines sont peut-être ailleurs encore. Difficile de savoir avec certitude où leur histoire a commencé, celle-ci étant basée sur le voyage permanent.
N'importe où ce serait possible, on aimerait rester. On serait heureux de pouvoir rester au même endroit. Avant, il y a longtemps, il y a 130 ans, c'était différent. Il y avait la sécurité. Maintenant, c'est très difficile pour nous. On ne peut pas voyager en toute tranquillité. J'aimerais pouvoir rester ici. Mais si le propriétaire décide de reprendre son terrain, on devra partir à nouveau.
Mais en Afghanistan, cette communauté musulmane, aux traditions plus souples, notamment vis-à-vis des femmes, et méprisé.
La seule différence entre nous et les autres Afghans est que nous sommes pauvres, nous n'avons pas d'argent, mais nous sommes aussi des êtres humains. Nous gagnons notre vie en mendiant et nos femmes travaillent à l'extérieur.
Elles vendent des bracelets de perles qu'elles confectionnent elles-mêmes. L'une des doyennes du camp a plus de 75 ans. Elle porte une longue robe bleue à fleurs. 6 points sont tatoués sur chacune de ses joues, 3 entre les sourcils et sur le menton.
J'ai fait ça quand j'étais jeune parce que c'était à la mode. Mais maintenant, je regrette. Moi, je suis née en Afghanistan. Où ça exactement, je ne m'en souviens pas. Je n'ai aucune idée d'où. Je n'ai plus de mémoire. Ma mémoire est partie.
Sur sa poitrine, 2 petites clés pendent à un cordon attaché autour de son cou.
Ça, ce sont mes clés parce que mes petits-enfants sont très turbulents. Ils font beaucoup de bêtises et ne restent pas tranquilles à la maison. Alors j'ai caché dans une boîte ma théière que je garde fermée à clé. Ils sont trop difficiles, ces petits-enfants. Je n'ai pas confiance. Cette théière, c'est une dame qui me l'a donnée il y a longtemps. Elle est partie vivre ailleurs et elle me l'a laissée.
La doyenne du camp ne possède que cette relique précieusement gardée comme un trésor. Elle a passé sa vie sur les routes entre l'Ouzbékistan, l'Afghanistan, le Pakistan.
On est tous arrivés dans ce camp à des moments différents. Certains il y a 2 ans, d'autres il y a 3 ans, 4 ans, ça dépend. C'était plus sûr avant pour nous. On pouvait voyager, mais maintenant c'est difficile à cause de la guerre. Mais aussi à cause du comportement des gens. Ma fille part toute la journée pour essayer de gagner de quoi nous acheter du pain, pour que l'on puisse manger.
Les femmes et les enfants sont souvent victimes d'insultes dans les rues de la grande ville du Nord, comme ailleurs dans le pays. Certains associent les Jogis à une communauté débridée. En cause, cette ouverture d'esprit qui leur est propre, mais qui détonne dans la société afghane, largement conservatrice. Les femmes Jogis sortent seules pour aller mendier ou vendre des bijoux de perles. Elles sont voilées mais portent des tenues très colorées. Dans le camp, une femme lave du linge à la pompe à eau, à l'entrée, sa robe retroussée laissant dévoiler ses mollets, scène inimaginable ailleurs dans les autres communautés du pays.
Je n'ai pas de cahier ni de stylo.
Dans les petites allées du camp, de nombreux enfants courent les uns après les autres. Feda Oural a 12 ans, le petit garçon est pieds nus, son blouson noir troué, son pantalon taché de terre. Il n'a qu'un rêve.
Je veux être peintre. Plus tard, je serai peintre professionnel. Je vais aller dans une école pour apprendre à mieux dessiner.
Feda va à l'école grâce à la carte d'identité que son père a réussi à lui faire obtenir. Sésame indispensable pour toute scolarisation, mais son quotidien est très difficile.
Les autres enfants sont très méchants avec moi. Ils me demandent des dessins et si je ne leur donne pas, ils me frappent. Alors, tous les jours, je peins et je leur apporte, comme ça ils me laissent tranquille.
Ouriel se rapproche et pose sa main sur l'épaule de Feda, qui est son enfant.
J'ai 4 fils et 5 filles. Et mon fils, là, il apprend l'anglais à l'école. Vas-y, parle.
Je m'appelle Feda.
Feda
Mullawala.
Cet enfant a les mêmes chances que les autres.
Il pourra avancer dans la vie. Il pourra avoir des opportunités.
Thank you.
Des camps de yogi comme celui-ci existent dans plusieurs villes du pays, à Kaboul, la capitale, à Jalalabad, dans l'Est. Mais il est difficile d'évaluer le nombre de personnes appartenant à cette communauté. Tout d'abord parce qu'il n'y a pas de recensement de population récent en Afghanistan. Le dernier date de 1979. Depuis, plus rien. Autre difficulté pour les yogis, la communauté n'est pas reconnue comme appartenant à la nation afghane par les autorités. Leur nomadisme n'en est pas la seule raison, puisqu'en Afghanistan, d'autres communautés vivent ainsi, telles les Kuchis. Mais ils ne sont pas méprisés, comme explique Ourial.
Dans l'ensemble, on est assez semblables, mais nous sommes les plus pauvres. Les Kuchis, eux, ont du bétail, ils ont des moutons, des chèvres, mais nous, nous n'avons rien. Nous sommes pauvres et nous n'avons aucune relation avec eux.
Isolés, les yogis tentent de faire valoir leurs droits. Dans ce camp, la plupart n'a pas de tazkira, la carte d'identité en Afghanistan. Les autorités rechignent encore à les leur fournir.
Tous les enfants n'ont pas leur tazkira parce que cela coûte près de 20 euros par personne. J'ai 22 personnes à ma charge. Et si je devais faire les démarches pour chacune d'entre elles, il me faudrait près de 440 euros. Je n'ai pas cette somme d'argent. C'est beaucoup trop cher pour moi. En tout cas, c'est plus facile depuis 7-8 ans d'obtenir des tazkira. Nous avons le droit de les demander auprès de l'administration. Mais le problème reste l'argent. Et puis aussi, l'accès à la propriété. Parce que nous ne pouvons pas acheter de terre. Ce que nous demandons, c'est d'être considérés comme des êtres humains.
Ourial a dû prendre un avocat pour faire valoir ses droits d'accès à une pièce d'identité afghane. En plus du coût de la pièce d'identité, il a dû s'acquitter des frais de justice. 1500 afghanis, près de 20 euros. Cela représente beaucoup d'argent pour cette population qui vit dans la misère. Le salaire moyen en Afghanistan est de 160 euros. Les yogis, eux, vivent essentiellement de la mendicité. Les hommes travaillent sur les chantiers de construction ou dans les champs en fonction de la demande. L'un d'eux échappe tout de même à l'opprobre.
Nous avons une personnalité célèbre dans notre communauté, très célèbre. C'est Haji Rangin, le joueur de Dambura. Il est le plus connu de tous les yogis. Tout le monde le connaît en Afghanistan.
Le son du Dambura résonne souvent dans les maisons en pisé. Quand Haji Rangin n'est pas en train de jouer pour un mariage ou un autre événement, il est ici, accordant son instrument, aux côtés de son petit frère, au tambourin, et de son oncle, au zirbalay. Haji Rangin, lui, est un expert du dembura. L'instrument rustique à cordes pincées ressemble à un luth à manches longs, avec deux cordes, la caisse de résonance ovale et sertie de nacre. Assis en tailleur, le musicien fait sonner les cordes avec un plectre placé entre le pouce et l'index. Un bracelet de gros lourd recouvre sa main qui à chaque mouvement provoque des sonorités qui rappellent les trots et les galops des chevaux du Buzkashi. Ce jeu équestre, typique de la région du nord de l'Afghanistan, où des chopendos, des cavaliers sur leur destrier, se disputent la carcasse décapitée d'un veau. Dans le nord de l'Afghanistan, le dambura accompagne chaque Buzkashi durant la saison hivernale et automnale.
Le dambura est connu pour être un vieil instrument originaire d'Ouzbékistan. Nous, les yogis, nous avons notre propre musique. Quand je me sens particulièrement inspiré ou triste, je crée des musiques et des chansons.
Même s'il est reconnu dans tout le pays, la notoriété d'Haji Rangin ne le préserve pas du mépris à l'égard de sa communauté.
Je pense sans cesse à notre communauté. Quand je joue, je chante certains poèmes qui racontent notre vie et tous les hommes âgés pleurent à cause de cette souffrance, à cause de l'injustice que nous endurons, de la discrimination dont nous sommes victimes.
Dans une allée, la doyenne, appuyée sur une canne, repart doucement vers sa maisonnette.
Il faut nous donner de la nourriture, du bois pour nous chauffer. C'est l'hiver et nous n'avons rien. Ce qu'il nous faut, c'est une terre. C'est tout ce qu'il nous faut. Je le souhaite du fond du cœur, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour qu'ils puissent travailler, aller à l'école, avoir une vie décente, vivre en paix.
Ce cri du cœur d'une vieille femme nomade, épuisée par la précarité, par la recherche permanente d'un lieu de vie sécurisé, cette communauté tout entière le porte en elle. Leur mode de vie ancestral n'est plus possible en Afghanistan, où le conflit fait rage depuis plus de 40 ans et où les déplacements ne sont plus sans risque dans le pays, dont 40% du territoire est sous le contrôle des insurgés talibans et où la menace vient aussi du groupe État islamique et des gangs criminels qui ont étendu leur zone d'influence. Les djoghis n'aspirent désormais qu'à deux choses, la sédentarisation et être considérés comme des Afghans à part entière. Djoghi, nomade discriminé d'Afghanistan, grand reportage de Sonia Ghezali, réalisé par Eva Moshinsky.